Radio Okapi. Journal présenté par Jocelyne Moussaou-Pondé.
Clôture ce mardi à Londres du sommet Royaume-Uni-Afrique. Hier, le chef de l'État congolais a échangé avec le président égyptien. Vous suivrez également dans ce journal la réaction d'un député national sur la dissolution de l'Assemblée nationale évoquée par le président Tshisekedi dans son adresse à la diaspora congolaise. Grève depuis hier des médecins membres du SINAMED. Ils s'insurgent contre la majoration de l'impôt professionnel sur le revenu dans les hôpitaux publics. Le service minimum est tout de même maintenu. Bonaventure Moutange, le concepteur du monument de Patrice-Emery Lumumba et du mausolée de Laurent-Désiré Kabila, plaide pour la construction d'un panthéon pour protéger les restes des personnalités politiques congolaises. Il est notre invité. Bonjour à tous. Le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement s'est clôturé ce mardi à Londres. La RDC est représentée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a échangé hier lundi avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Pour sa part, le premier ministre britannique Boris Johnson a, dans son discours d'ouverture du forum, plaidé en faveur d'un Royaume-Uni en tant que partenaire d'investissement de choix pour les pays du continent africain. Pour lui, l'Afrique est l'avenir de l'économie. Londres a annoncé des accords commerciaux pour plus de 7,5 milliards d'euros entre entreprises britanniques et africaines. Ici, au pays, au cours d'un point de presse tenu hier lundi à Kinshasa, le député national Henri Thomas Lokondo, élu de la ville de Mbandaka, a réagi à la déclaration du chef de l'État devant la diaspora congolaise à Londres. Félix Tshisekedi parlait de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de crise persistante. Dans quel cas peut dissoudre l'Assemblée nationale, Henri Thomas Lokondo explique au micro de Richard Junior Kamunga.
Cette matière-là est réglée par une disposition de la Constitution, l'article 148, qui dit qu'il ne peut, lui, dissoudre le Parlement, plutôt l'Assemblée nationale, que quand il y a une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Pas entre le gouvernement et lui, le chef de l'État. Ni pas entre l'Assemblée nationale et lui. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et après, pour qu'il puisse prononcer la dissolution, il faudrait qu'il puisse maintenant consulter le Premier ministre, les deux présidents des chambres. Mais alors, si ces trois personnalités disent qu'il n'y a pas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va rien faire. Donc, c'est une espèce de compétence liée. Lui ne peut prononcer la dissolution que quand ces gens-là attestent, confirment qu'effectivement, il y a une crise.
Je le disais tantôt, les médecins affiliés au syndicat national de médecins SINAMED en sigle observent depuis hier lundi une grève avec un service minimum. Ces médecins fustigent entre autres l'annonce par l'État congolais de la majoration de l'impôt professionnel sur les revenus, IPR en sigle. Ils demandent aussi la réponse à leurs préoccupations contenues dans les différents accords entre le gouvernement et le SINAMED. Les conséquences de cette grève sont déjà perceptibles. À l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo notamment, les activités ont été paralysées hier lundi. Reportage grâce à Mzati.
Telle est la situation vécue ce lundi à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Beaucoup de malades sont abandonnés à leur triste sort. Pas de consultations ou d'autres services à part les services d'urgence. Dans les pavillons, nombreux patients et leurs proches affichent une mine morose. Des patients sont renvoyés avec leurs fiches de consultation à main. Témoignage.
Ah, Nazan a souci.
Je suis venu avec ma mère pour la consultation, mais le médecin nous dit qu'ils ne vont pas nous recevoir car ils sont en grève. Que le gouvernement les satisfasse, sinon nous allons mourir ici.
Même les médecins stagiaires sont interdits par leur encadreur de faire une quelconque activité au sein de l'hôpital. Pourtant, ils sont touchés par l'affluence des malades.
Voir une institution pareille, totalement paralysée, c'est accepter de faire mourir cette masse de personnes.
Louis Mambé, patient âgé de 62 ans, assis dans le couloir du pavillon 2. Il a été opéré, mais il craint d'être abandonné si cette grève s'accentue. Il lance un appel aux autorités afin de répondre rapidement aux revendications des médecins.
Que l'État paye bien le médecin pour que nous, malades, soyons à l'aise.
Contrairement à l'hôpital général de référence de Kinshasa, à la clinique Ngaliema, où nous sommes également passés, les activités se déroulent normalement, même si certains malades éprouvent la crainte d'être aussi délaissés.
J'ai pas de chaque bureau pour arrêter, même si j'ai commencé.
Autre mouvement, c'est cette manifestation des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, hier dans leur site. Ils protestent contre la majoration, selon eux, des frais académiques par l'administration universitaire. Ces étudiants qui reconnaissent que les frais leur exigés sont fixés au taux actuel exigent qu'ils soient payés au taux de 921 francs congolais pour un dollar. Encore un reportage signé Grace Hamzati.
Les frais fixés par l'administration universitaire de l'IFASIC Gombe s'élèvent à 580 000 francs congolais pour les promotions de recrutement et 510 000 francs pour les autres promotions. Pour les étudiants, il n'est pas question de payer cet argent. Pour eux, les frais à payer doivent être fixés à 322 000 comme l'année dernière. Pour ce faire, d'après les témoins, quelques étudiants ont manifesté depuis ce lundi matin. Ils ont cassé les chaises en plastique et ont tenté de lapider les recteurs qu'ils ont copieusement insultés. L'un des étudiants explique.
Juste l'année passée, nous étions dans les 300 000 quelques et cette année, du coup, ça nous sautons à 500 000, bien qu'on peut parler des changements, des constructions, des nouvelles choses qui doivent arriver ici à l'Institut. On se dit quand même que c'est assez brusqué.
Pour sa part, le coordonnateur des étudiants affirme que ces revendications ne sont pas dignes d'être faites, car ce montant a été fixé par le comité de gestion en concertation avec la coordination estudiantine. Il invite ses camarades au calme. Gédéon Kaena.
Le montant qui a été fixé est le fruit des négociations qu'on a eu à mener avec les chefs de promotion et leurs adjoints et les comité de gestion. Et moi, j'appelle tout le monde au calme. Je leur dis souvent de ne pas imiter ce qui se passe ailleurs. On a vu comment ça s'est passé à l'Unikin et aujourd'hui, l'université est temporairement fermée.
Notez que les activités sont suspendues par les autorités de l'IFASIC Gombe.
Oui, grâce à ce qu'affirme le directeur de communication de cette institution universitaire. Léon Moukoko précise que cette mesure est prise pour emmener le calme et évacuer tous les fauteurs de troubles parmi les étudiants. Les autorités de l'université sont formelles. Le montant des frais académiques est maintenu. Il ajoute que les professeurs devront se réunir demain mercredi pour statuer sur cette question. Léon Moukoko est joint par Jean-Didier Ogobani.
Au moment où je vous parle, les auditoires sont fermés en attendant que les profs et tout le monde là puissent se retrouver pour voir ce qu'on va faire.
Donc le montant est maintenu.
Jusqu'ici, le montant est maintenu puisqu'il a été négocié. Et il n'y a pas de nouvelles négociations à ma connaissance. Aujourd'hui, il s'agissait de ramener le calme puisque les négociations ont eu lieu le mercredi passé. Le protocole d'accord a été signé et il fallait ramener le calme, évacuer tous les fauteurs de troubles. Bon, l'année dernière, le montant était évalué à 400 dollars pour la première année, 350 dollars pour les classes montantes, mais payable au taux de 920. Et c'est ce qui avait fait même beaucoup de malentendus avec les professeurs qui, comme je disais, continuent à attendre le manque à gagner.
Autre nouvelle, Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, effectue une visite de solidarité du 23 au 27 janvier en RDC. C'est ce qu'a indiqué à Radio Okapi Abdulaziz Choy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, hier lundi ici à Kinshasa. Il a précisé que Michelle Bachelet vient répondre à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour faire le suivi de la situation des droits humains en RDC. Abdulaziz Choy est joint par Paul Matendo.
Madame Michelle Bachelet vient répondre à l'invitation du président Tshisekedi. D'abord, c'est une visite de solidarité à l'endroit du peuple congolais, mais aussi de suivi de la situation des droits de l'homme. Elle s'entretiendra au cours de sa visite avec les autorités congolaises, la société civile, le corps diplomatique, l'équipe pays des Nations Unies et également aura une entretien avec le président le lundi 27. Il y aura également une cérémonie avec la Commission nationale des droits de l'homme.
On peut estimer que Michelle Bachelet va examiner des cas tels que les cas de Yumbi et Ituri.
Et évidemment, ces cas-là peut-être feront l'objet de discussions avec les autorités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a déjà nommé des experts internationaux qui sont actuellement en RDC, en train de travailler avec les autorités, en termes de suivi sur la résolution 3820 du Conseil des droits de l'homme, qui met en place un mécanisme d'assistance technique pour travailler sur l'appui aux autorités congolaises dans la mise en œuvre des recommandations, notamment sur le Kasaï, mais aussi sur du concernant Yumbi.
Direction Nyanzou dans la province du Tanganyika où nous apprenons qu'au lendemain de la mort du chef de groupement Kamanya, le chef Mukimbo, la situation sécuritaire reste préoccupante dans la zone. Nous sommes à 200 km à l'ouest de Kalemi. Environ 2000 personnes fuyant l'attaque attribuée à la milice Toa dans leur village sont signalées aux environs du centre de Nyanzou. Écoutons à ce sujet la lecture de la situation que fait le député national de Nyanzou, Emmanuel Mukundi. Il est joint au téléphone par François-Xavier Mibé.
Moi-même, j'étais à 60 km de Nyanzou, l'axe menant vers Kabalo, où je ne pouvais pas accéder à Nyanzou parce que il y avait une bande armée, mais opérant au nom des Toa, stimulant certains Toa qui ne comprennent pas, à chasser le Bantou dans les villages. Nos forces armées interviennent, mais on se rend compte que ce ne sont pas les Toa. Les Toa n'ont pas d'armes à feu. L'axe Manono également. Il y a même deux militaires qui sont blessés, qui sont aujourd'hui à l'hôpital général de Nyanzou. Et aujourd'hui, où je vous parle, vous prenez l'axe Manono, tous les villages jusqu'à la frontière de Manono, les gens ont fui, il y a ceux qui sont morts, et nombreux sont au niveau des 15 km. L'axe Kabalo, toute la population jusqu'à 40 km a fui, plus de 2000 personnes dehors, parce qu'il n'y a pas de maison. Ce qui arrive, c'est la population qui souffre. Il faut que l'intervention arrive urgente.
Actualité internationale.
Le nouveau virus qui s'est répandu à travers la Chine a fait une quatrième victime. Un homme de 89 ans est mort dimanche après avoir eu des difficultés à respirer à Wuhan, la ville du centre du pays où s'est déclenchée l'épidémie qui a infecté plus de 200 personnes, a précisé la commission locale de la santé dans un communiqué. Le virus à l'origine de la mystérieuse pneumonie serait plus contagieux qu'initialement annoncé. Certains accusent la Chine d'avoir dissimulé l'ampleur de l'épidémie, rapporte le média en ligne letemps.ch. Le président turc reste prudent après l'accord de Berlin. De retour de la capitale allemande, Erdogan semble partagé entre son intérêt à saluer des avancées après l'engagement des principaux pays concernés par le conflit en Libye à respecter l'embargo sur les armes afin de parvenir à un cessez-le-feu durable et la prudence quant à la suite car rien ne garantit encore la réussite de l'accord.
L'invité.
Un panthéon qui servira de lieu de tourisme pour les visiteurs et où l'on pourrait bien sauvegarder les restes de Lumumba, Kassavubu, Laurent-Désiré Kabila, Mobutu et autres personnalités politiques congolaises. C'est un plaidoyer que fait le constructeur du monument de Patrice Emery Lumumba et du mausolée de Laurent-Désiré Kabila. L'ingénieur Bonaventure Moutange à Tshilombe regrette l'absence d'entretien de ses œuvres, principalement le monument de Lumumba sur le boulevard qui porte son nom. Ingénieur Bonaventure Moutange, et l'invité de Radio Capi s'entretient avec Jeff Ngoy.
Monsieur Bonaventure Moutange, bonjour.
Bonjour.
59e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Quel rêve pour vous cette journée?
Vous savez, Patrice Emery Lumumba, c'est un héros national. Il a légué au peuple congolais le patriotisme et l'esprit de sacrifice. Donc ce sont deux éléments qu'il a légués au peuple congolais. Pour nous, il représente la lutte contre l'impérialisme, la lutte contre tout ce qui est comme prédateur dans notre république. Voilà à peu près ce que représente le fait Patrice Emery Lumumba.
Et le monument que vous avait construit. Chaque année, on va déposer des gerbes, des fleurs autour de ces monuments. Après, plus rien ne suit. C'est la saleté. Ça devient un lieu de refuge, de chéguer. Quel est l'impact du monument que vous avez construit?
Bon, vous savez, ici au Congo, nous pouvons désormais ajouter un élément que nous n'avons pas. C'est l'élément d'entretien. Un élément très capital, c'est le suivi de tous les projets. Vous savez, le lieu où on a placé le monument, c'est quand même un lieu symbolique. Hein. Ça représente l'intersection de toute la population. Hein. C'est juste un symbole au croisement de la population qui vient de Tchang ou tout ça. C'est très significatif. Donc c'était un homme qui était là pour le peuple. Mais je suis quand même désolé pour dire que nous n'avons pas la culture d'entretien, nous n'avons pas la culture de garder le bien ici au Congo. Quand on a une œuvre, il faut bien l'entretenir après. Il y a un contrat qui existe, mais ce contrat n'a jamais été payé, une dizaine d'années. Et les gens ne peuvent pas continuer à faire des sacrifices sur ça. Après avoir conçu le mausolée, après avoir conçu le monument, l'entretien devrait suivre, mais cet entretien n'est jamais payé. Il y a des gens qui sont sur le site dizaines d'années sans être payés. Vous comprenez qu'on se rappelle seulement la veille pour aller déposer des œuvres de fleurs, ça ne suffit pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une idée qu'a lancée la présidente de la fondation, Mme Laurent-Désiré Kabila. Elle regrette aussi qu'au Congo, il n'y a pas la structure d'entretien. Il faudrait qu'on ne peut pas réaliser plusieurs monuments. Ça coûte... un problème d'entretien ne suit pas. Et d'ailleurs, nous avons une idée hein, qui nous est venu sur la tête, ce qu'on voit à travers la République. Si vous allez, par exemple, en Égypte ou au Maroc, vous allez voir que les grands hommes sont enterrés dans un seul endroit. C'est l'idée que nous allons essayer de pousser au niveau de réflexion, au niveau du Parlement, pour qu'il y ait effectivement un grand mausolée pour tous les chefs d'État qui sont déjà morts.
Pensez-vous à un mausolée pour Lumumba?
Non, il faudrait qu'on arrête cette histoire de faire des mausolées à gauche et à droite. Il faudrait qu'on crée une sorte d'amphithéâtre, une sorte de grand mausolée pour pouvoir mettre l'ensemble de toutes nos autorités. On met Kassavubu là-dedans, parce que Kassavubu a aussi un mausolée qui n'est pas entretenu, même par le fils du Congo central. Il n'entretient pas le mausolée, il est en ruine au jour le jour. C'est honteux pour la République. Donc, il faudrait qu'on fasse vraiment un grand mausolée pour l'ensemble de tous les chefs d'État.
On les met tous ensemble.
Tous ensemble.
Une histoire de panthéon.
Voilà une sorte de panthéon en France, partout une France de panthéon, où on met Joseph Kassavubu, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi. On place les chefs d'État et les premiers ministres. Donc, ça serait une catégorie des gens qui ont travaillé durement pour la nation. C'est ce qu'il faut faire. Et doter de cette structure d'un budget, tout ça, en ce moment-là, qui est entretenu. Et cette structure de panthéon est suivie même par les élèves, une histoire. Il faut qu'on recrée l'histoire. Il faut qu'on réécrive l'histoire. Même si vous allez aujourd'hui dans les écoles ici, vous demandez aux enfants Lumumba, c'est qu'ils ne savent pas. Il faut qu'il y ait une éducation civique et une éducation idéologique. Vous comprenez? Dans nos écoles aussi, il n'y en a pas. Donc, il faudrait, dans les tout prochaines années, qu'il y ait cette sorte de panthéon. Il y a de la place. On peut le mettre le monument Mongalima. Il y a trop de place en ce moment-là.
Il y a beaucoup d'espace vert.
D'espace vert, oui, pour mettre une structure comme ça. Et on place tout le monde. Parce que nous avons quand même une chance en disant, Mouzé est mort, c'est son fils qui l'a enterré. Etienne Tshisekedi est mort, c'est son fils qui l'a enterré. Et le jour où il n'y aura pas un président qui est en fonction, qui doit enterrer son papa, ça sera comment?
Une certaine opinion déplore l'absence des restes de Lumumba. On ne sait pas où est-ce qu'on peut aller en touriste pour visiter. On se limite à la petite maison qui est sur le boulevard. Selon vous, qu'est-ce qui devait être fait pour commémorer cette journée?
Merci beaucoup. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de créer une sorte de panthéon au Congo pour essayer de récupérer les vestiges, de récupérer tout le reste de Lumumba, tout le reste de tous les chefs d'État qui sont morts ou les premiers ministres qui sont morts, afin de les mettre dans un seul endroit. À ce moment-là, on a au moins une adresse, parce que là, il y a des gens qui cherchent effectivement le reste de Lumumba, à part visiter la maison sur le boulevard, ils vont au Katanga. Hein, il y a une petite tombe là où on avait enterré Lumumba et tout le reste des gens. Mais c'est difficile. Il faudrait que l'État puisse s'organiser au niveau du département du tourisme, d'essayer de travailler avec l'ensemble de toutes ces fondations pour essayer d'organiser ces visites. Quand les gens arrivent au Congo, qu'ils sachent où est-ce qu'il faut aller chercher le vestige de Lumumba, les vestiges de Kassavubu, de Laurent Désiré Kabila. Permettre le rapatriement de tous les biens de Mobutu, en ce moment, ça sera un non-lieu de tourisme pour le Congo.
Monsieur l'ingénieur Moutange, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.